Chapitre 2. La route de Londres. Certaines gens rêvent toujours de départs et d'aventures pour se donner aux yeux des autres et d'eux-mêmes des manières de héros. Puis, quand ils sont au milieu de l'affaire et qu'un péril survient, ils se mettent à penser « Quelle sottise m'a donc poussé et qu'avais-je besoin de venir me fourrer où je suis ?» C'était tout juste le cas du jeune Guccio Baglioni. Il n'avait rien tant désiré que de connaître la mer, mais maintenant qu'il était dessus, il aurait payé fort cher pour être ailleurs. On se trouvait en pleine marée d'équinoxe, et les navires n'avaient guère été nombreux ce jour-là à lever l'ancre. Faisant un peu le fendant sur les quais de Calais, la dague au côté et le manteau rejeté sur l'épaule, Guccio avait enfin trouvé un patron de bateau qui voulut bien l'embarquer. Ils étaient partis au soir, et la tempête s'était levée presque à la sortie du port. Enfermé dans un réduit ménagé sous le pont, près du grand mât, « C'est l'endroit où cela bouge le moins », avait dit le patron. Et où un battant de bois servait de couchette, Guccio était en train de passer la pire nuit de sa vie. Les vagues frappaient comme à coups de bélier contre le bateau, et Guccio sentait le monde basculer autour de lui. Il roulait du bas-flanc sur le plancher et se débattait longuement dans une obscurité totale, tantôt heurtant la charpente et tantôt les paquets de cordage durcis par l'eau. La coque semblait sur le point d'éclater. Entre deux halètements de la tempête, Guccio entendait les voiles claquer et des masses d'eau s'effondrer sur le pont. Il se demandait si tout l'équipage n'avait pas été balayé et s'il n'était pas seul survivant à bord d'un navire désemparé que le flot lançait contre le ciel pour le rejeter aussitôt vers les abîmes. « Sûrement je vais mourir », se disait Guccio. « Comme c'est sot de mourir de la sorte à mon âge, englouti au milieu de la mer. Jamais je ne reverrai Paris, ni Sienne, ni ma famille. Jamais je ne reverrai le soleil. Si seulement j'avais attendu un jour ou deux à Calais, quelle sottise! Mais si j'en ressors par la Madone, je reste à Londres, je me fais débardeur, faquin, n'importe quoi, mais jamais je ne repose le pied sur un bateau. » Enfin, il entoura des deux bras le pied du grand mât, et à genoux dans le noir, cramponné, tremblant, l'estomac malade, les vêtements trempés, il attendit sa fin, en promettant des ex voto à Santa Maria delle Nevi, à Santa Maria della Scala, à Santa Maria dei Servi, à Santa Maria del Carmine, autant dire à toutes les églises de Sienne qu'il connaissait. Avec l'aube, la tempête se calma. Guccio, épuisé, regarda autour de lui. Les caisses, les voiles, les prélards, les ancres et les cordages s'entassaient dans un effrayant désordre. Au fond du bateau, sous le plancher disjoint, une nappe d'eau clapotait. La trappe qui donnait accès au pont s'ouvrit et une voix rude cria « Hola, signor! Avez-vous pu dormir ?»«
Dormir ?»
répondit Guccio sur un ton plein de rancune. « Je pourrais aussi bien être mort !» On lui lança une échelle de corde et on l'aida à se hisser sur le pont. Un grand souffle froid l'enveloppa et le fit frissonner sous ses vêtements mouillés.
« Vous ne pouviez donc pas m'avertir qu'on aurait une tempête ?»
dit Guccio au patron du bâtiment.
« Bah, mon gentilhomme, il est vrai que nous avons eu une mauvaise nuit, mais vous sembliez si pressé. Et puis pour nous, vous savez, c'est chose courante, » répondit le patron. « Maintenant, nous sommes près de la côte. »
C'était un vieil homme robuste, au poil gris. Il regardait Guccio de manière un peu goguenarde. Tendant le bras vers une ligne blanchâtre qui sortait de la brume, il ajouta
« C'est Douvres, là-bas. »
Guccio soupira, en serrant contre lui son manteau.
« Dans combien de temps arriverons-nous ?»
L'autre haussa les épaules et répondit
« 2 ou 3 heures, pas plus, car le vent souffle du levant. »
Sur le pont, 3 matelots étaient étendus, recrues de fatigue. Un autre, accroché au timon du gouvernail, mordait dans un morceau de viande salée, sans quitter des yeux la proue du navire et la côte d'Angleterre. Guccio s'assit auprès du vieux marin, à l'abri d'une petite cloison de planches qui coupait le vent, et malgré le jour, le froid et la houle, il tomba endormi. Lorsqu'il se réveilla, le port de Douvres étalait devant lui son bassin rectangulaire et ses rangées de maisons basses aux murs grossiers, aux toits chargés de pierres. À droite de la passe se détachait la demeure du shérif, gardée par des hommes en armes. Le quai, encombré de marchandises empilées sous des auvents, grouillait d'une foule bruyante. La brise charriait des odeurs de poisson, de goudron et de bois pourri. Des pêcheurs circulaient, traînant leurs filets et portant leurs lourdes rames sur l'épaule. Des enfants tiraient sur le pavé des sacs plus gros qu'eux. Le bateau, voiles amenées, entra dans le bassin. La jeunesse a vite fait de récupérer à la fois ses forces et ses illusions. Les dangers surmontés ne servent qu'à lui donner davantage confiance en elle-même et à la pousser vers d'autres entreprises. Il avait suffi à Guccio d'un sommeil de 2 heures pour oublier ses frayeurs de la nuit. Il n'était pas loin de s'attribuer tout le mérite d'avoir dominé la tempête. Il y voyait un signe de sa bonne étoile. Debout sur le pont, dans une pose de conquérant, la main serrée sur un cordage, il regardait avec une curiosité passionnée venir à lui le royaume d'Isabelle. Le message de Robert d'Artois, cousu dans son vêtement et la bague d'argent enfermée dans sa bougette, lui semblait les gages d'un grand avenir. Il allait entrer dans l'intimité du pouvoir, connaître des rois et des reines, savoir le contenu des traités les plus secrets. Avec ivresse, il devançait le temps. Il se voyait déjà un prestigieux ambassadeur, confident écouté des puissants de la terre, devant qui les plus hauts personnages s'inclinaient. Il participerait au Conseil des princes. N'avait-il pas l'exemple de ses compatriotes Biccio et Mosciato Guardi, les deux fameux financiers toscans que les Français appelaient Biche et Mouche, et qui avaient été pendant plus de 10 ans les trésoriers, les ambassadeurs, les familiers de l'austère Philippe le Bel? Il ferait mieux qu'eux, et un jour, on raconterait l'histoire de l'illustre Guccio Baglioni, débutant dans la vie en manquant de renverser le roi de France au coin d'une rue. La rumeur du port lui parvenait comme déjà une acclamation. Le vieux marin jeta une planche entre le bateau et le quai. Guccio paya le prix de son passage et quitta la mer pour la terre ferme. Ne transportant pas de marchandises, il n'eut point à passer par les traites, c'est-à-dire les douanes. Au premier gamin qu'il rencontra, il demanda d'être conduit chez le lombard du lieu. Les banquiers et marchands italiens de cette époque possédaient leur propre organisation de courrier et de fret. Formés en compagnie, qui portait le nom de leur fondateur, ils avaient des comptoirs dans toutes les villes principales et dans les ports. Ces comptoirs étaient à la fois une succursale de banque, un bureau de poste privé et une agence de voyage. Le lombard de Douvres appartenait à la compagnie Albizzi. Il fut heureux de recevoir le neveu du chef de la compagnie Tolomei et le traita du mieux qu'il put. Chez lui, Guccio trouva à se laver. Ses vêtements furent séchés et repassés. Il changea son or français contre de l'or anglais et prit un fort repas tandis qu'on lui apprêtait un cheval. Tout en mangeant, Guccio raconta la tempête qu'il avait essuyée en s'y donnant un rôle avantageux. Il y avait là un homme arrivé de la veille qui s'appelait Boccaccio ou Boccas et qui était voyageur pour le compte de la compagnie Bardi. Il venait lui aussi de Paris et avait assisté avant son départ au supplice de Jacques de Molay. Il avait, de ses oreilles, entendu la malédiction, et il se servait, pour décrire cette tragédie, d'une ironie précise et macabre qui enchanta la tablée italienne. C'était un personnage d'une 30aine d'années, au visage intelligent et vif, avec des lèvres minces et un regard qui semblait s'amuser de tout. Comme il se rendait également à Londres, Guccio et lui décidèrent de faire chemin ensemble. Ils partirent au milieu du jour. Se souvenant des conseils de son oncle, Guccio fit parler son compagnon, qui d'ailleurs ne demandait que cela. Le signor Boccas semblait avoir beaucoup vu. Il était allé partout, en Sicile, en Vénétie, en Espagne, en Flandre, en Allemagne, jusqu'en Orient, et s'était tiré avec habileté de bien des aventures. Il connaissait les mœurs de tous ces pays, avait son opinion personnelle sur la valeur comparée des religions, méprisait assez les moines et détestait l'Inquisition. Il paraissait aussi s'intéresser aux femmes. Il laissait entendre qu'il en avait pratiqué beaucoup et connaissait sur une foule d'entre elles, illustres ou obscures, de curieuses anecdotes. Il faisait peu de cas de leurs vertus, et son langage s'épissait à leurs propos d'images qui rendaient Guccio songeur. Un esprit libre, ce signor Boccas, et tout à fait au-dessus du commun. « J'aurais aimé écrire tout cela si j'avais eu le temps, » dit-il à Guccio, « toute cette moisson d'histoires et d'idées que j'ai récoltées au long de mes voyages. »« Que ne le faites-vous, signor ?» répondit Guccio. L'autre soupira, comme s'il avouait quelque rêve inexaucé. « Trop tard.
On ne devient pas clerc à mon âge, dit-il. Quand on a pour métier de gagner de l'or après 30 ans, on ne peut plus rien faire d'autre. Et puis, si j'écrivais tout ce que je sais, je risquerais d'être brûlé. » Cette marche au botte à botte avec un compagnon plein d'intérêt, à travers une belle campagne verte, enchanta Guccio. Il aspirait avec plaisir l'air printanier. Les fers des chevaux chantaient à ses oreilles une chanson heureuse, et il prenait aussi bonne opinion de lui-même que s'il avait partagé toutes les aventures de son voisin. Au soir, ils s'arrêtèrent dans une auberge. Les haltes du voyage disposent aux confidences. Tout en buvant devant le feu des pichets de godal, forte bière épicée aux genièvres, aux piments et aux clous de girofle, le signor Boccas raconta à Guccio qu'il avait une maîtresse française, dont lui était né l'an passé un garçon baptisé Giovanni. On dit que les enfants nés hors mariage sont plus vifs et plus vigoureux que les autres, remarqua sentencieusement Guccio, qui avait quelques bonnes banalités à sa disposition pour nourrir la conversation. Sans doute Dieu leur fait-il des dons d'esprit et de corps pour compenser ce qu'il leur ôte d'héritage et de respect, répondit le signor Boccas. Celui-là, en tout cas, aura un père qui pourra lui apprendre beaucoup. À moins qu'il n'en veuille à son père de l'avoir mis au jour dans de si mauvaises conditions, dit le voyageur des Bardis. Ils dormirent dans la même chambre. Au petit matin, ils reprirent la route. Des lambeaux de brume collaient encore à la terre. Le signor Boccas se taisait. Il n'était pas un homme de l'aube. Le temps était frais et le ciel s'éclaircit bientôt. Guccio découvrait une contrée dont la grâce le ravissait. Les arbres étaient encore nus, mais l'air sentait la sève, et la terre était déjà verte d'une herbe fraîche et tendre. D'innombrables haies découpaient les champs et les collines. Le paysage vallonné, ourlé de forêts, l'éclat vert et bleu de la Tamise aperçu du haut d'une côte, une meute filant à travers prés, suivie par des cavaliers, tout séduisit Guccio. La reine Isabelle a un beau royaume, se disait-il. À mesure que les lieux passaient, cette reine prenait de plus en plus de place dans ses pensées. Tout en accomplissant sa mission, pourquoi n'essaierait-il pas de plaire ? L'histoire des princes et des empires offrait maints exemples de choses plus étonnantes. Pour être reine, elle n'en est pas moins femme. Elle a 22 ans et son époux ne l'aime pas. Les seigneurs anglais ne doivent pas oser la courtiser de peur de déplaire au roi, tandis que moi, j'arrive, je suis messager secret. Pour venir, j'ai bravé la tempête. Je mets un genou en terre, je la salue d'un grand coup de bonnet, je baisse le bas de sa robe. Déjà, il polissait les mots par lesquels il allait placer son cœur au service de la jeune souveraine blonde. « Madame, je ne suis point noble, mais je suis libre citoyen de Sienne, et je vaux bien mon gentilhomme. J'ai 18 ans et ne connais pas de plus cher désir que celui de contempler votre beauté et de vous faire offre de mon âme et de mon sang. » Nous voici bientôt arrivés, dit le signor Boccas. Ils avaient atteint les faubourgs de Londres sans que Guccio s'en fût aperçu. Les maisons se rapprochaient le long de la route. La bonne odeur de forêt avait disparu. L'air sentait la tourbe brûlée. Guccio regardait autour de lui avec surprise. Son oncle Ptolomée lui avait annoncé une ville extraordinaire, et il ne voyait qu'une interminable succession de villages faits de masures aux murs noirs, avec des ruelles sales où passaient des femmes chargées de lourds fardeaux, des enfants en guenilles et des soldats de mauvaise mine. Soudain, dans un grand concours de gens, de chevaux et de charrois, les voyageurs se trouvèrent devant le pont de Londres. Deux tours carrées en fortifiaient l'entrée, entre lesquelles, le soir, on tendait des chaînes et l'on fermait d'énormes portes. La première chose que remarqua Guccio, ce fut une tête humaine, toute sanglante, plantée sur l'une des piques qui hérissaient ces portes. Les corbeaux tournaient autour de ce visage aux yeux crevés. « La justice du roi des Anglais a fonctionné ce matin, » dit le signor Boccas. « C'est ainsi que finissent ici les criminels, ou ceux qu'on dit tels pour s'en débarrasser. »« Curieuse enseigne pour accueillir les étrangers, » dit Guccio. « Une manière de leur faire connaître qu'ils n'arrivent point dans une ville de fleurettes et de tendresse. » Ce pont était le seul qui fut alors jeté sur la Tamise. Il formait une véritable rue construite au-dessus de l'eau et dont les maisons de bois, pressées les unes contre les autres, abritaient toutes sortes de négoces. 20 arches de 60 pieds de haut soutenaient cet extraordinaire édifice.
Il avait fallu près de 100 ans pour le bâtir, et les Londoniens en étaient fort orgueilleux. Une eau trouble bouillonnait autour des arches, du linge séchait aux fenêtres, des femmes vidaient des seaux dans le fleuve. En comparaison du pont de Londres, le Ponte Vecchio à Florence ne semblait qu'un jouet, et l'Arno, auprès de la Tamise, qu'un ruisselet. Guccio en fit la remarque à son compagnon. « C'est quand même nous qui apprenons tout aux autres peuples, » répondit celui-ci. Il leur fallut presque un tiers d'heure pour passer de l'autre côté, tant la foule était dense et tenace les mendiants qui les accrochaient par la botte. En arrivant sur l'autre rive, Guccio aperçut, à main droite, la tour de Londres, dont l'énorme masse blanche se détachait sur le ciel gris. Puis, à la suite du signor Boccas, il s'enfonça dans la cité. Le bruit et l'agitation qui régnaient dans les rues, la rumeur des voix étrangères, le ciel plombé, la lourde odeur de fumée qui imprégnait la ville, les cris qui sortaient des tavernes, l'audace des filles effrontées, la brutalité des soldats braillards, surprirent Guccio. Au bout de 300 pas, les voyageurs tournèrent à gauche dans Lombard Street, où toutes les banques italiennes avaient leur établissement. Maison de peu de mine sur l'extérieur, à un étage, deux au plus, mais fort bien entretenue, avec des portes cirées et des grilles aux fenêtres. Le signor Boccas laissa Guccio devant la banque Albizzi. Les deux compagnons de route se séparèrent avec beaucoup de chaleur, se félicitèrent mutuellement de leur amitié naissante et se promirent de se revoir très vite, à Paris.